Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Écho d'ici, écho d'ailleurs, millésime 2023. Ravi avec notre réalisateur Guillaume Munier de vous faire parcourir cette planète économique qui nous surprend de semaine en semaine. 2023, année d'espoir, d'un monde plus serein, rêvons un peu. Année aussi, il ne faut pas se cacher, d'incertitude. Il y a cette pandémie qui n'en finit pas, mais aussi encore et toujours la guerre en Ukraine et ses conséquences mondiales sur la sécurité alimentaire. Un problème certes bien plus ancien, mais qui est d'autant plus visible depuis un an. Pour résumer de façon un peu triviale, la géopolitique s'est invitée dans les cuisines de milliards de terriens, particulièrement dans les pays en développement et particulièrement en Afrique. Menace de famine dans certains pays, plus d'un quart des habitants de la planète sont en situation d'insécurité alimentaire, selon l'ONU. Nous en avons déjà largement parlé en 2022 dans nos émissions, mais là, pour cette première de 2023, nous avons décidé d'aborder le sujet très différemment, sous l'angle des solutions. Comment faire pour nourrir les populations, riches ou pauvres? Comment imaginer de nouveaux modèles agricoles plus adaptés pour que le continent africain, notamment, devienne moins dépendant des autres? Une nouvelle agriculture plus respectueuse aussi de l'environnement. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir été invités par nos amis de Spark News, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Nous sommes ici dans leur locaux à Paris, dans le 9e arrondissement. Spark News, une entreprise française qui œuvre à mettre en lumière des récits positifs et inspirants autour des transitions écologiques et sociales. En ce mois de janvier, Spark News lance une initiative collective à laquelle RFI et Écho d'ici, Écho d'ailleurs ont décidé de s'associer. 11 médias français et africains synchronisent leur calendrier et s'unissent pour passer à l'heure Afrique, l'heure H-E-U-R-E, comme celle que l'on lit au cadran de nos montres. Bonjour Anissa Sodemont.
Bonjour Bruno.
Vous êtes la directrice des programmes médias chez Spark News. Présentez-nous en quelques mots cette opération.
Alors déjà, on est ravis de vous avoir dans nos bureaux. C'est un grand plaisir.
Partagé.
Spark News, ça fait 10 ans qu'on accompagne les médias en France et à l'international pour les aider à parler mieux, de manière plus constructive, des enjeux sociétaux et environnementaux. Et cette année, on a proposé à 11 médias digitaux français et africains de s'allier pour mettre en perspective les enjeux auxquels fait face le continent. Alors pourquoi cette publication L'heure Afrique? Parce que les médias, pour nous, les journalistes, ont un rôle essentiel à jouer pour faire tomber les murs qui sont en train de se dresser entre les communautés, les pays, les continents, attirer peut-être un peu plus le regard sur ce qui nous ressemble, faire voyager les pistes de solutions aux crises auxquelles nous faisons face, et puis surtout, surtout soutenir l'esprit d'ouverture et de solidarité que nous nous devons de cultiver. Alors pour une semaine, vous allez pouvoir retrouver sur les sites et les réseaux sociaux des médias partenaires comme Brut Afrique, Now You, So Good, Oui Demain, Ouzbek Erika, Natura Science, Le Dranche, Hip Hop, RFI bien entendu, Efaza et Iwachu en Afrique, où chacun, à leur façon, avec leur propre format, ils vont diffuser des contenus à la fois éclairants et engageant pour permettre de mettre en lumière ces liens qui nous unissent tous.
Merci Anissa. On a d'ailleurs un représentant de Brut Afrique avec nous dans ce studio improvisé, Edouard Ning. Bonjour.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Tous ces médias qui ont préparé des reportages sur ces grandes thématiques que sont les inégalités, la santé, le climat et donc la sécurité alimentaire, les nouvelles pratiques agricoles, vaste sujet, mais qui nous passionne. Dans cette émission, nous allons entendre des extraits de ces nombreux reportages.
Je milite en quelque sorte à travers mon projet pour répandre l'agriculture biologique en Algérie. Aujourd'hui, je fais vraiment ce métier par passion.
Ces déchets animaux, nous les prenons pour faire du compost que nous utilisons sur nos cultures.
Le potager, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion.
Et pour les commenter, ces reportages, un passionné, un vrai, Marc Debetz, bonjour.
Bonjour Bruno Faure, bonjour à tous.
Merci d'être à nos côtés. Marc Debetz, vous présidez la société Apex Agri, c'est une société de conseil experte dans le développement de filières agricoles, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Vous conseillez les entreprises, les producteurs, les décideurs, les investisseurs, les distributeurs, tous les acteurs de ces secteurs. Vous êtes une sorte d'entremetteur, on peut dire les choses comme ça?
Oui, notre finalité, c'est de développer des filières agricoles performante et durable. On va revenir évidemment durant cette émission sur la notion de performance, de productivité et évidemment sur la notion de durabilité. Et pour faire ces filières, eh bien, il faut que tous les acteurs puissent se réunir au sein de cette chaîne du producteur au financeur au consommateur de façon à ce qu'on ait quelque chose de durable, d'équilibré et aussi qui permette aux producteurs et aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier, ce qui est un objectif très important au sein d'Apex Agri.
Des pistes nouvelles pour l'agriculture avec le chef d'orchestre Marc Debetz. Je pense avoir décrit le concept de cette émission innovante et que vous pourrez prolonger naturellement sur les réseaux sociaux. On vous mettra tous les liens utiles sur RFI.fr, à la page Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur notre page Facebook RFI Éco. Merci à Spark News pour son accueil. Merci à vous de nous écouter. Bonne émission à toutes et à tous. Marc Debetz, avant d'écouter un premier reportage, quelques mots de la situation générale sur le continent africain depuis le début de cette guerre en Ukraine. Comment décririez-vous ces impacts sur les marchés agricoles et sur la sécurité alimentaire ?
Évidemment, la guerre en Ukraine a déstabilisé les marchés. Et aujourd'hui, j'étais au Cameroun il y a 6 semaines encore, la préoccupation de nos interlocuteurs, qu'ils soient des interlocuteurs des différents ministères, qu'ils soient des acteurs privés, c'est de pouvoir s'approvisionner en céréales, en engrais aussi, en intrants, à des prix qui soient corrects. Et le problème aujourd'hui, c'est que ça vaut une fortune. Et en plus, les bateaux n'arrivent pas forcément. Et du coup, ça remet en exergue, évidemment, le débat de la souveraineté de la production locale.
Il y a quand même eu cet accord à la fin de l'année 2022 pour exporter du blé russe en Afrique. Est-ce que ça a soulagé les marchés ?
Alors, on sent un premier soulagement. Mais malheureusement, cette crise ukrainienne, elle vient se rajouter à d'autres crises fondamentales. La crise climatique, puisque le continent africain est le premier continent touché par ce réchauffement climatique, une crise sécuritaire. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'agriculteurs, d'éleveurs, ont aujourd'hui des difficultés pour pouvoir exploiter leurs champs, pour pouvoir exporter leurs animaux. On fait des missions au Tchad et ainsi de suite. Quand vous voulez exporter au nord, aller vers la Libye, aujourd'hui, il y a des problèmes significatifs en termes de sécurité. Et puis aussi la démographie, qui est un enjeu fort, positif, en termes de millions de jeunes Africains prêts à venir prêter leur intelligence et leurs bras à la production et au développement du pays, mais qu'il faut aussi nourrir. Donc, en effet, ce sont la somme de ces enjeux qu'il faut adresser aujourd'hui.
Ça veut dire que les cours des céréales, notamment, vont rester très volatiles pendant toute cette année 2023, selon vous ?
Alors, je n'en sais rien. Si je suis honnête, je vous dis je n'en sais rien, mais probablement, puisqu'on a quand même une demande qui est présente, qui va s'accroître, et des enjeux dans différents territoires de production et de productivité. Donc on sent qu'on a un déséquilibre et un aléa. Mais en même temps, depuis que l'agriculture existe, elle est soumise à 2 aléas fondamentaux, aléas de cours, c'est-à-dire qu'un agriculteur vient semer son champ, il ne sait pas à quel prix il va vendre, en général, et aléas de production, il ne sait pas ce que la météo, l'irrigation va lui réserver, et donc il ne sait pas combien il produira.
Eh bien justement, un premier reportage pour illustrer les difficultés des exploitants agricoles sur le continent. Un reportage vidéo tourné par Hip-Hop, ce réseau de vidéastes lancé par RFI, Planète Radio et par l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Nous sommes au Bénin, à Dassazoumé, dans le centre du pays. C'est une zone essentiellement agricole, avec une production presque totalement végétale. Là, le problème, c'est essentiellement la sécheresse, les effets du changement climatique. Doucan Ernest est agriculteur depuis toujours et il a bien du mal à irriguer ses plantations.
Là, le coin,
je suis agriculteur depuis ma naissance. Mes parents ont toujours eu l'habitude de nous dire que la terre ne ment jamais. Mais aujourd'hui, notre travail agricole constitue une source de dette pour nous. Il ne pleut plus suffisamment, donc tout ce que nous avons semé ne pousse pas. Auparavant, lorsqu'il pleuvait normalement, nous, les agriculteurs, connaissions 3 saisons pluvieuses dans l'année. La première était destinée aux cultures de la première saison, et ainsi de suite. Mais actuellement, les saisons ont changé et les pluies viennent comme bon leur semble, ce qui nous amène à mettre en terre les cultures de la première saison au moment de la troisième saison. Les plantes reçoivent de l'eau, mais plus à temps.
Voilà donc pour ce témoignage hip-hop. Et nous sommes justement en ligne avec l'hip-hopeuse qui a tourné cette vidéo. Bonjour, Ulfat Towobola Bouraïma.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en agronomie à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. Que font les agriculteurs dans votre pays pour innover, pour faire face à cette sécheresse?
Merci beaucoup, monsieur Bruno. D'abord, cette vidéo hip-hop a été tournée dans Dassazoumé, qui est une commune vraiment avec un relief assez difficile. Parce que Dassazoumé est encore appelée la ville aux 41 collines. Donc, ça vous donne déjà une idée de comment le relief se présente là-bas. Et ces agriculteurs confrontés déjà aux problèmes d'accès à l'eau et au sol assez difficile. Et à cela s'ajoute maintenant la variabilité climatique qui n'est pas du tout à leur avantage. Donc, ils sont obligés de recourir au fourrage installé par le gouvernement et dans le cadre des projets des ONG et autres pour pouvoir arroser leurs champs. Donc, ils utilisent les tricycles avec les bidons jaunes qu'ils amènent vers ces sources d'eau pour pouvoir prendre et ramener dans le champ pour arroser. En dehors de cela, il y a la promotion des espèces, des variétés à cycle court, des variétés de céréales à cycle court. Par exemple, les maïs de 3 mois et nous avons le soja, le sorgho, qui sont beaucoup plus adaptés à notre contexte de changement climatique. En dehors de cela, quand ça a perdu et que bon, il n'y a plus vraiment d'espoir, ils abandonnent carrément le champ et ils cherchent d'autres activités. Donc, les plus jeunes sont beaucoup plus amenés à les zones rurales, donc ils viennent en ville pour avoir un peu de souhait. Dès le début de la saison pluvieuse, ils retournent pour pouvoir reprendre des activités champêtres.
Ulfat, vous êtes donc spécialisée en agronomie. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné et est-ce que ça vous donne des idées pour agir dans votre pays pour la recherche agricole?
Bon, j'ai étudié à l'Université nationale d'agriculture et comme toute université agricole, on nous apprend les basiques liées à l'agriculture, les types de sols, la géologie, l'hydrologie, la sociologie, tout ce dont un agronome a besoin quand même pour répondre et faire face aux défis de son pays en matière de production agricole. Et moi, particulièrement, après mes études en agronomie, je me suis spécialisée en production animale. Et la production animale, bon, comme les gens le disent, nous faisons partie des producteurs de gaz à effet de serre parce que les ruminants produisent, lors de leur rumination, produisent du méthane, qui est un gaz à effet de serre. Moi, c'est dans ce contexte que moi, j'ai beaucoup plus travaillé sur les chèvres laitières qui constituent une alternative à la production du lait. Parce que de plus en plus, avec les effets du changement climatique, on note une faible disponibilité des parcours fourragers et la rareté des cours d'eau, ce qui rend difficile déjà la transhumance, ça rend difficile l'alimentation des bovins. Et au même moment, nous avons ces chèvres laitières qui sont peu demandeurs en espace, moins demandeurs en alimentation, c'est-à-dire moins demandeurs en eau et moins producteurs en gaz à effet de serre par rapport aux bovins. Déjà qu'il faut noter qu'au Bénin, nos vaches laitières ont une production assez faible. Ces chèvres pourront compléter la production et à la longue peut-être constituer une alternative. Donc, j'ai des camarades qui ont travaillé sur pas mal de thématiques, les biofertilisants, la restauration des sols, la promotion des espèces à cycle court, pas mal quand même d'innovations dans le sens des réponses quand même au changement climatique. Donc chaque jour, nous travaillons pour soulager la peine de nos producteurs et rendre l'agriculture fiable, durable et économiquement rentable.
Merci, merci mille fois Ulfat Towobola Bouraïma pour toutes ces belles idées. On a été content de vous parler à distance. Bonne chance pour vos recherches. Marc de Betz, cette jeune femme, elle a tout dit, non?
Elle a tout dit. Elle a mis en exergue la denrée rare, une des denrées rares de l'agriculture, qui est l'eau, l'accès à l'eau. Donc c'est une vraie problématique. Et ça veut dire qu'il faut développer des pratiques, des types de semences, et ainsi de suite, qui sont plus résistantes à la chaleur, qui auront besoin de moins d'eau. Et je veux citer, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des initiatives de création de semences de maïs ou de soja qui sont adaptées à des climats plus arides, moins consommateurs d'eau. Ce témoignage mettait en exergue aussi la filière du lait. Au Maghreb, on a mené toute une étude sur comment produire du lait. On en a besoin, le continent africain a besoin de lait, c'est un élément important. L'OMS reconnaît que c'est un besoin fondamental pour les populations et leur bien-être, mais en consommant moins d'eau. Et on y arrive, moins 25%, ce sont des résultats.
Les variétés courtes dont cette jeune femme parlait, moins le maïs de 3 mois par exemple, quand on a ces décalages dans les saisons, c'est
alors, oui, voilà, parce que la problématique, c'est on ne peut mettre en semence que quand on a un sol qui est à peu près préparé. Mmh. Et du coup, les témoignages le montrent bien, c'est que les saisons des pluies étant perturbées, on maîtrise un peu moins cette période de semis. Et donc, en effet, il faut alors soit faire plus court, soit quelquefois faire plus long, mais moins consommateur d'eau. Et c'est là où des gens produisent aujourd'hui, réfléchissent sur l'adaptation des semences. Encore une fois, le but, c'est pas d'importer des semences des États-Unis ou d'Europe qui marchent très bien pour les États-Unis, l'Europe et ainsi de suite, mais c'est d'avoir des solutions locales qui fonctionnent.
On imagine que selon les pays où vous intervenez, avec Apex Agri, les recettes sont à chaque fois différentes ?
Oui, alors on a plusieurs zones. Évidemment, la zone sahélienne est assez caractéristique. L'Afrique de l'Est est beaucoup plus favorable pour un certain nombre de productions. Le Maghreb, c'est autre chose. Quand on va au Ghana, quand on va en Afrique du Sud, c'est encore un autre monde. Mais ça, je veux dire, un agriculteur aujourd'hui, c'est la réalité, y compris dans sa ferme, parce que les terrains ne sont pas homogènes. C'est la donnée de base de ce qu'est l'agriculture et on sait le traiter.
Les forages dont Roulfat parlait aussi, une solution miracle, enfin une des solutions.
Alors, dans beaucoup de pays, et c'est surprenant, on a de l'eau accessible, mais en effet, on n'a pas forcément les forages parce qu'on a besoin, pour faire l'agriculture, d'infrastructures. Infrastructures de forage pour donner l'accès à l'eau, mais aussi infrastructures pour pouvoir sécher les productions, pour pouvoir les apporter au lieu de consommation. On a à peu près 50% de la production dans le monde qui est perdue. Et une bonne partie en Afrique, elle est perdue au champ. Donc on arrive à produire plus ou moins bien, mais parce qu'on ne stocke pas bien, parce qu'on ne sèche pas bien, ou parce qu'on n'a pas les pistes et les routes qui permettent d'acheminer, bon, on a de la perte, c'est dommage.
Les conditions climatiques, préoccupation majeure en effet dans de nombreux pays, sécheresse ou inondation. Et puis il y a les effets directs ou indirects de la guerre en Ukraine, ces pénuries qui se multiplient et qui ont des conséquences, par exemple au Sénégal. En septembre dernier, l'Inde a annoncé des restrictions sur les exportations de riz. Le but de l'Inde est de protéger son approvisionnement domestique. Chaque année, d'habitude, le Sénégal importe en moyenne 900 000 tonnes de riz. C'est l'ingrédient principal du fameux Thiéboudienne. Charlotte Hydrac, vous êtes notre correspondante à Dakar. Bonjour.
Bonjour Bruno Faure, bonjour à toutes et à tous.
Charlotte, les autorités ont pris des mesures pour limiter cette dépendance.
Oui, alors pas de panique, hein, affirme le docteur Walid Diouf, c'est le coordonnateur du programme national d'autosuffisance en riz. Pour le moment, dit-il, il n'y a pas de pénurie, mais il faut poursuivre les efforts engagés après la crise de 2008, hein, ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Alors face aux restrictions indiennes, il y a plusieurs pistes. D'abord, augmenter encore la production nationale. Elle est en hausse ces dernières années. Elle tourne autour d'1 400 000 tonnes de riz pas dit, hein, donc non décortiqué, affirme Walid Diouf. Mais l'objectif affiché d'autosuffisance en 2017 n'est pas atteint. Pour y arriver, il estime qu'il faudrait mobiliser environ 1 300 milliards de francs CFA, ce qui représente environ 2 milliards d'euros. Deuxièmement, autre mesure, diversifier les marchés d'importation, donc acheter du riz ailleurs, en Thaïlande ou au Pakistan par exemple. Et puis, troisième point, amener les consommateurs à acheter le riz local, parce que certains préfèrent le riz importé, le riz dit parfumé. Mais les choses ont changé, affirme Walid Diouf. Il n'y a plus de problème de qualité, dit-il, sur le riz sénégalais.
Merci Charlotte. Marc de Betz, je vous ai vu réagir à ces pistes lancées par le gouvernement sénégalais.
Oui, c'est vraiment très encourageant de voir la production de riz au Sénégal qui progresse. Il y a eu tous les travaux d'aménagement du fleuve Sénégal à travers une coalition avec le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et rejoint aussi par la Guinée à travers tout l'aménagement de la vallée du Sénégal. Il y a des producteurs de riz comme la compagnie agricole de Saint-Louis du Sénégal qui y produisent. Mais en fait, le potentiel agricole est bien plus important que la production actuelle. Et la question, c'est de savoir mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas produire plus vite ? En fait, pour produire du riz, il faut aménager les terrains, il faut les aplanir et il faut créer des systèmes d'irrigation qui vont durer entre 15, 20 ou 30 ans. Mais un agriculteur va le faire s'il fait pour lui. Et ça, ça questionne l'accès au foncier. Parce que si je suis agriculteur, je veux bien aménager, creuser les systèmes d'irrigation pour faire du riz. Mais à condition d'être certain que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je continuerai à exploiter cette terre. Et aujourd'hui, en Afrique, ce n'est pas fait dans tous les pays. Et en plus, on n'a pas un système de détermination des parcelles et ainsi de suite qui est en place. Et du coup, qui ne permet pas non plus de contrôler la notion de propriété.
Autre enjeu, produire pour nourrir la population, pas nécessairement pour exporter.
Exactement. On a vu l'agriculture africaine se développer à travers des productions d'export. Faire du cacao, faire un certain nombre de choses, ce n'est pas pour la population.
Avec les problèmes qu'on
avec les problèmes qu'on sait.
Par exemple, sur le cacao.
Et donc, le but, c'est de convertir l'agriculture vers une agriculture, j'ai l'habitude de dire, faite par les Africains, les hommes et les femmes africaines qui font leur agriculture, pour les Africains, soit pour le pays, soit pour la sous-région, puisque l'enjeu est bien de nourrir les populations et d'offrir une diversité d'ingrédients qui va leur permettre de progresser, de nourrir toute la population.
Vous avez commencé à effleurer le sujet du financement de cette agriculture. Qui doit payer ? Les bailleurs internationaux, les entreprises privées, les fonds publics ? C'est que les fonds publics, ce n'est pas forcément évident.
Alors, ce qui est intéressant, je suis aussi administrateur d'une fondation qui est FARM et qui mène un observatoire du financement public. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture la plus financée, elle est aux États-Unis et en Europe. 25% de le financement public représente 25% de ce qui est produit. En Afrique, c'est 9%. Et quand je dis 9%, c'est une moyenne, ça varie entre 4 ou 5% jusqu'à une douzaine de pourcents. Donc, c'est là où on en a le plus besoin que c'est le moins financé. Et les accords de Maputo et ainsi de suite ont prévu, et les gouvernements s'étaient alignés en disant il faut qu'au moins 10% de notre dépense publique aille vers l'agriculture. Ça se fait plus ou moins, à ma connaissance, il y a un seul pays qui a dépassé ce critère-là.
Qui peut faire plus alors ?
Alors justement, je ne pense pas personnellement que les États, ils ont beaucoup de choses à faire, vont être les financeurs de l'agriculture de demain. Par contre, quand on regarde, il y a beaucoup de financement qui est prêt à s'investir sur l'agriculture à condition d'avoir des projets structurés. Et quand je parle de financeurs, ce sont des financeurs publics. Hein, la France, l'Europe, les États-Unis sont prêts à financer et puis aussi des financeurs privés. Et nous avons eu par exemple l'expérience au Tchad de structurer une filière viande, puisque le Tchad est dans une situation extraordinaire. Elle dispose d'un cheptel extraordinaire, plus de 100 millions de têtes de bétail, mais il n'y a aucune valorisation locale. Et ça, c'est un des problèmes, parce que si on ne fait pas de valorisation locale, on ne crée pas de la valeur pour les populations locales, et ainsi de suite. Eh bien, à partir du moment où on structure un projet à l'échelle du pays, eh bien, le financement public arrive. Là, on parle quand même de 500 millions de dollars. Eh bien, du financement privé ou public arrive.
Et quand vous parlez du privé, des entreprises qui viendraient s'implanter ou des investisseurs qui donneraient de l'argent à distance ?
Alors, les deux. C'est-à-dire les fonds privés de financement sont prêts à donner, à prêter de l'argent parce qu'ils l'ont inscrit dans leur raison d'être, et c'est très important. Et la deuxième, aussi des acteurs privés qui sont prêts à faire. Mais attention, il faut faire attention de ne pas avoir une prédation et de ne pas avoir ces ressources naturelles qui sont produites localement et exportées pour être transformées en Europe, en Chine, et ainsi de suite. Parce que là-dessus, ce n'est pas ça une filière performante, durable et structurée. Donc c'est pour ça que nous prenons, et nous avons l'expérience, de la notion de partenariat public-privé. Parce qu'il faut que le privé soit acteur, il amène son efficacité, sa capacité de financement, mais le public, les gouvernements, doivent être aussi garants de la bonne répartition de la valeur, notamment pour les agriculteurs et les éleveurs.
Marc De Betz, le président d'Apex Agri, est avec nous. L'un de vos combats, c'est aussi l'entrepreneuriat agricole. Je voudrais que l'on écoute un témoignage édifiant de quelqu'un qui a réussi et pour qui tout n'était pas tracé d'avance. Une jeune femme algérienne, Lydia Merouche, qui s'est lancée dans l'agriculture bio.
Je m'appelle Lydia Merouche, je viens d'Algérie. Je suis avocate de formation reconvertie dans l'agriculture biologique. J'ai rangé ma robe d'avocate pour enfiler mes bottes d'agricultrice et j'ai lancé Fossoul, qui veut dire saison en arabe, une société éco-responsable spécialisée dans la production de fruits et légumes de saison, sans insecticides, sans pesticides et sans engrais chimiques. Quand je me suis lancée dans l'agriculture, en fait, je me suis lancée tout d'abord dans la culture de la stévia, parce qu'il y avait une forte demande sur le marché. Et donc, j'étais en Espagne, j'ai fait une formation et puis je suis rentrée en Algérie avec des graines. J'ai commencé mes tests dans une petite serre de 20 mètres carrés. Aujourd'hui, je suis sur une exploitation de 7 hectares, la première exploitation qui est à Alger même, donc de 7 hectares. Mais après, quand je me suis lancée dans les fruits et les légumes, j'ai dû prendre d'autres exploitations pour produire plus, pour produire bien et pour produire aussi tout près du consommateur. Je milite en quelque sorte à travers mon projet pour répandre l'agriculture biologique en Algérie. Aujourd'hui, j'essaie de sensibiliser et les clients et les agriculteurs que je rencontre au danger des intrants chimiques et qu'il faut absolument se tourner vers une agriculture 100% vertueuse, une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de la biodiversité et plus protectrice de la santé humaine.
Des propos recueillis par Charlotte Cosset du service économie de RFI, Marc de Betz. Il y en a d'autres, des exemples. Ça doit donner envie à d'autres de se lancer dans ce genre d'aventure agricole.
Bien évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer Lydia la fin de l'année dernière. Et en fait, elle est représentative d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'hommes et de femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui se lancent dans l'agriculture, qui reviennent à l'agriculture. Et c'est très intéressant parce qu'elles amènent leur intelligence, leur expérience, leur vision et puis un optimisme débridé. Parce qu'il faut être très résilient, il faut être très optimiste pour conduire ces projets, mais à la fin, ça fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant, les témoignages le montrent. Chaque fois qu'on produit quelque chose et qu'on va valoriser la notion de localité, qu'on va pouvoir accéder au marché assez rapidement, sans milliers d'intermédiaires et qu'on va pouvoir faire de la transformation, eh bien ça fonctionne.
Oui, mais engranger des revenus, ce n'est pas forcément immédiat. La rentabilité, elle ne vient pas dès la première année.
Rarement. L'agriculture, c'est un sport de temps long. Mmh. Et en effet, il faut essayer, il faut apprendre de ses échecs. C'est de l'entrepreneuriat, mais en plus dans un domaine qui est l'agriculture, qui est plutôt à cycle long qu'à cycle court. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et on voit des témoignages tous les jours sur « j'ai essayé, ça a été difficile ». Mais finalement, j'ai réussi.
Et vous, chez Apex Agri, qu'est-ce que vous faites justement pour encourager ces candidats à l'agriculture? Qu'est-ce que vous faites pour accélérer leur rentabilité?
Alors, c'est partagé. En fait, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes simplement des porteurs de savoir. Et donc, c'est leur permettre d'accéder à un savoir, d'analyser pour accélérer leur processus de création d'entreprise. Et puis la deuxième chose, c'est là aussi la notion de filière. À partir du moment où on sait fédérer des acteurs comme Lydia et d'autres, ils vont prendre du poids. Ils vont pouvoir être aussi une force de discussion avec des acteurs privés, avec les financeurs, avec les gouvernements. Et donc cette coalition, en France et en Europe, ça s'est fait à travers des coopératives. En Afrique, on a aussi des coopératives, mais l'essentiel, c'est d'avoir des organisations de producteurs qui peuvent peser dans la discussion et dans le dialogue et défendre leurs intérêts.
Marc de Betz, le président du cabinet de conseil Apex Agri, est notre invité dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, pour parler de nouvelles pratiques agricoles. Nous sommes installés dans les locaux de Spark News, qui a coordonné le travail de 11 médias en France et en Afrique. L'heure Afrique, hashtag à retrouver sur nos réseaux sociaux, sur RFI Éco.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Faure.
Et l'on continue de donner la parole à ceux et à celles qui cherchent une nouvelle voie agricole pour le continent africain, un chemin qui respecterait davantage l'environnement. Il y a un concept dont on parle beaucoup, c'est l'agroécologie. Exemple dans la ferme Sichem au Togo.
Ici, vous allez constater que c'est un environnement, un écosystème qui réunit tout ce qu'on a besoin. En fait, il y a la production végétale, il y a la production animale. Des unités d'élevage, il y en a plusieurs ici. Nous avons la porcherie, le clapier qui est la cuniculture, l'élevage des lapins. Nous avons aussi la chèvrerie et puis nous avons des pondeuses et l'élevage des poules locales. Donc ces déchets animaux qui viennent de là, nous les prenons pour faire du compost que nous utilisons sur nos cultures. Et également, il faut noter que nous avons aussi un biodigesteur et que nous prenons des déchets d'animaux. De bœufs, je vais parler des bouches de vache, des déchets de la porcherie, puisque eux sont en grande quantité, pour faire un produit qui est le digesta, à base du biodigesteur qui est installé ici dans la ferme.
L'animal au bénéfice du végétal, Marc de Betz, utiliser davantage les déchets, c'est possible?
Évidemment, premièrement, la nature n'a pas de poubelle, il faut se le rappeler. Donc les processus naturels, en forêt, les processus végétaux, les processus animaux, sont faits de cette circularité. La deuxième chose, en effet, l'animal produit des déjections qui sont utiles pour la culture. Eh bien, on pourrait penser que toutes les agricultures utilisent ça. C'est faux. C'est impressionnant. Donc la première ressource d'engrais, qui est, dans certains cas, donc des déjections animales, et ainsi de suite, mais aussi les écarts de production, par exemple le coton, le soja, et ainsi de suite, ne sont pas systématiquement utilisés. Et là, l'exemple qu'on vient d'entendre est magnifique. Et on voit bien cette dimension circulaire et la complémentarité des différentes cultures. Donc on est bien dans la notion d'agriculture raisonnée, de permaculture, de cycle performant. Et donc ça, c'est une inspiration forte pour la production agricole de demain, évidemment.
Pour aller plus loin sur cet enjeu de la valorisation des déchets, nous retrouvons Edouard Ning, journaliste à Brut Afrique. Rebonjour Edouard.
Rebonjour Bruno.
Brut Afrique qui s'est rendu en plein cœur d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec une expérimentation d'agriculture urbaine. Racontez-nous.
Effectivement, je pense qu'il y a plein d'éléments qui ont été soulevés, comme l'accès à l'eau, les questions sécuritaires et autres. Et justement, lors de ce reportage en Côte d'Ivoire, on se rend compte finalement que ces problématiques sont toutes liées les unes aux autres, effectivement, et même l'Afrique est un peu avant-gardiste sur cette notion de recyclage, parce que c'est un phénomène naturel finalement. Aujourd'hui, en Europe, en France, on se pose la question de comment recycler, mais finalement, le système économique en Afrique, le système naturel de l'Afrique fait que les gens sont obligés de recycler naturellement. Et on l'a vu lors de ce reportage avec Stéphane, qui ont leur potager urbain, 100% fait de produits recyclés, de produits locaux. Et justement, je pense que c'est une des forces du continent africain.
Qu'est-ce qu'ils produisent ?
Ils produisent des légumes, des fruits, de la betterave, il y a de la moutarde, enfin plein de produits dans leur potager, et 100% local, fait avec des produits justement qui ont été recyclés. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit plus se poser la question de comment est-ce qu'on doit arriver à être autosuffisant alimentairement. Je pense que la question, c'est plutôt comment accompagner ce projet, parce qu'il y a un engagement populaire. Mais maintenant, il faut un accompagnement de cet engagement. Parce que c'est pas facile. Marc parlait tout à l'heure de résilience. Il faut beaucoup de résilience pour aujourd'hui pousser la jeunesse à s'orienter vers l'agriculture. Parce qu'avec la mondialisation, on a tous une utopie de réussite qui fait que beaucoup de jeunes en Afrique pensent que le fait de retourner à l'agriculture, c'est un peu dégradant. Alors que pas du tout. C'est l'avenir. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse prend de plus en plus conscience que l'agriculture, la terre, nous rend tout le temps ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, il faut encourager et accompagner ces projets.
RFI, Radio France Internationale.
L'agriculture urbaine, un autre exemple. En Tunisie, cette agriculture plus proche des gens, là encore, ce sont des partenaires de notre alliance médiatique, Leur Afrique, qui sont allés sur le terrain. Faza, premier média de Tunisie, 100% vidéo et 100% digital, pour ce reportage dans un potager urbain.
Le potager, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de passion.
Un potager urbain, on peut le définir par les immeubles qui l'entourent. Nous sommes en plein centre-ville. Il profite en fait de cette protection du vent. Il est bien exposé, il est bien aéré, il y a du soleil.
Ça serait intéressant que même dans nos conceptions de la ville, de quartier, qu'on prévoie des potagers partagés entre les habitants. Et moi, j'irais même à penser à des potagers autour de maisons, dans des places, qui permettent d'une part d'assurer une sécurité alimentaire, mais aussi qui permettent aux voisins de se connecter, d'être ensemble. Donc c'est des potagers qui permettent l'échange, qui permettent l'apprentissage et qui permettent aussi d'avoir une autosuffisance par rapport à son alimentation.
Zahra Jenan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Faza.tn. Vous êtes en ligne de Tunis où vous avez tourné cette vidéo. Il ressemble à quoi ce potager urbain ?
Alors ce potager urbain, c'est vraiment une bouffée d'air frais en plein Tunis, qui est une ville de plus en plus peuplée, de plus en plus polluée. Il se situe dans un quartier résidentiel qui s'appelle Manzassis, au sein d'une cité. Donc ce sont des logements sociaux. Et on a autour de ce petit potager de 100 mètres carrés environ, 6 barres d'immeubles, avec environ une vingtaine d'appartements dans chaque immeuble. Et donc, c'est une bouffée d'air frais, c'est de la verdure. On entend les oiseaux, chose qui n'existait pas. On entend les oiseaux le matin, il y a des papillons. C'est vraiment quelque chose de très, très positif et qui nous donne de l'énergie, en fait.
Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce potager ?
Alors, c'est un potager qui a été dessiné par Sir Abdel Fattah, qui est un biologiste de formation, et qui a dessiné ce potager sous la forme de la permaculture. Donc, en fait, on peut trouver un peu de tout en fonction des saisons, forcément. Donc, on a réalisé le reportage en décembre. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait du basilic, il y avait de la roquette. On a pu voir également des plantes, des fleurs traditionnelles de Tunisie qui n'existent plus, qu'on ne retrouve que dans les montagnes. On a également eu la chance de pouvoir y trouver du safran. C'est leur trésor, d'ailleurs, ils l'appellent. Enfin, il y avait un petit jeu, ils nous ont fait deviner quel trésor on s'imagine trouver dans ce potager et on n'aurait jamais imaginé pouvoir trouver du safran. Donc c'est vraiment en fonction des saisons.
Zahra, dernière question. On sait que cette idée d'agriculture urbaine se généralise dans de nombreuses villes du monde. Y compris en Europe, y compris aux Amériques, y compris ailleurs. On cherche à être autosuffisant, surtout depuis les confinements du Covid et peut-être encore plus depuis la guerre en Ukraine.
Bien sûr, c'est une réalité qu'on vit également, donc sur différents aspects, que ce soit la rareté de certains produits ou encore la cherté, les prix ont augmenté. Donc c'est vrai que de pouvoir avoir ces potagers urbains, un membre de cette communauté a pu planter et a pu cultiver des pommes de terre dans son balcon au sixième étage. Tout est possible et c'est vrai que le fait que cette sécurité alimentaire est de plus en plus en danger, le fait d'avoir ces initiatives qu'on espère voir se propager, se développer, qu'une communauté autour de ça puisse se créer, qu'on puisse échanger autour de ces thématiques-là, c'est très très important. Et puis on l'a clairement vu pendant le confinement grâce à ce potager. On parle de pratiquement une vingtaine d'appartements, donc de familles, ont pu bénéficier de la récolte à ce moment-là. Donc ils ont pu manger frais. Il y avait des fèves, il y avait de la roquette, sachant que la roquette est un produit de luxe en Tunisie, c'est un produit qui coûte très très cher. Ça a créé un vrai engouement autour de tout ça et puis surtout ça a pu nourrir plusieurs familles pendant le confinement, concrètement.
Merci à vous Zahra Jenan, bonne journée à Tunis, cette vidéo à retrouver sur faza.tn dont vous êtes la fondatrice. On vous retrouve Marc Debetz, président d'Apex Agri, cette mobilisation citoyenne pour une agriculture plus locale. Qu'est-ce que ça vous inspire, produire des pommes de terre sur son balcon ?
Premièrement, ce que je retiens, c'est l'enthousiasme. Et on voit bien, on entend bien dans la voix de ces témoignages tout l'intérêt qu'il y a. Au-delà de la dimension fonctionnelle, se nourrir, moi je retiens deux choses. C'est premièrement la reconnexion. Reconnexion au cycle de la nature. Recomprendre, parce que nous, urbains, on a oublié cette dimension-là. Et donc, on a besoin de se reconnecter pour comprendre et pour respecter. On ne peut pas accepter de faire notre marché et d'avoir des tomates qui pourrissent dans notre frigo. Ce n'est pas possible. C'est encore une fois 50% de ce que la nature nous donne, nous le jetons. Et du coup, quand on se met à produire, on respecte. Donc, reconnexion vis-à-vis de la nature et reconnexion sociale. Ça devient un lieu où on parle, où les enfants sont là. Et donc, c'est très intéressant. Et l'autre commentaire, c'est que en fait, c'est une solution, ça fait partie de la solution, mais on a besoin de toutes les agricultures. On a
c'est
besoin
pas ça qui va nourrir l'Afrique.
C'est pas que ça. Et on a besoin de l'agriculture urbaine. On a la chance à Paris, par exemple, d'avoir la plus grande ferme urbaine européenne. Elle est au-dessus du parc des expositions de Villepinte. Donc, on a des initiatives comme ça. On a besoin de la petite agriculture. Elle est fondamentale, notamment en Afrique, puisqu'encore une fois, c'est 65% de l'emploi africain qui est autour de l'agriculture, de la moyenne agriculture et de la grande agriculture. Donc, on doit permettre à toutes ces initiatives de se développer en parallèle.
Sortir des sentiers battus. Pour satisfaire les besoins des foyers, il faut parfois se détourner en effet de l'agriculture traditionnelle. Autre exemple, dans l'extrême nord de Madagascar, avec l'agroforesterie, des petites parcelles de terre où l'on cultive plusieurs produits, où l'on associe les arbres, les cultures ou l'élevage. Extrait d'un reportage de la correspondante de RFI, Laetitia Bezin.
Manguiers, citronniers, cannes à sucre ou encore arbres à noix de cajou. Autrefois asséchés, la parcelle de Fredona Ramanand Salam est aujourd'hui terre d'abondance.
Ça n'est pas l'agriculture traditionnelle de mes parents que je pratique. Ici, je multiplie les cultures. Cette technique améliore la qualité du sol. J'ai commencé avec des espèces à croissance rapide, comme les arachides, le niébé, la canne à sucre et les bananes. Puis on a planté des arbres fruitiers, comme les manguiers que vous voyez là. Ils devraient être très hauts, mais je les taille de cette façon arrondie et ça donne plus de mangue.
L'agroforesterie dynamique assure aux agriculteurs des revenus toute l'année, explique Afanitu Munjain, chef de projet adjoint du Missouri Botanical Garden.
C'est une activité qui ne demande pas beaucoup de terrain, parce que d'habitude, dans le village malgache, on a tendance à chercher beaucoup d'espace. Un parcelle pour les haricots, un parcelle pour les maïs, un parcelle pour les manioc. Mais dans l'agroforesterie dynamique, dans un parcelle de 40 mètres sur 40 mètres, on peut faire pousser 12 variétés d'espèces agricoles. Pendant chaque saison, on récolte.
Marc de Betz, pas mal d'avantages apparemment pour l'agroforesterie, une pratique relativement nouvelle, ce que disait l'une des personnes du reportage. Mes parents ne faisaient pas ça.
Exactement, et on passe d'une agriculture hyper spécialisée. Donc on a quand même des endroits sur la planète où on est capable de faire pendant 20 ans, 30 ans la même culture. Et le résultat, c'est l'appauvrissement des sols. Et du coup, dans ces pays-là, on est obligé de faire ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Donc on va régénérer les sols, régénérer la biodiversité, régénérer la richesse de l'écosystème de façon à ce qu'il puisse devenir productif et plus productif. Là, l'intérêt, le témoignage, c'est qu'on intègre dans un système agricole et production l'ensemble des dimensions et puis c'est le principe de la rotation. C'est vieux comme le monde, mais on l'a oublié. La spécialisation, c'est l'appauvrissement, la rotation, c'est la richesse.
Halte à la monoculture. La forêt, on en parle encore, la forêt souvent en danger. Lutter contre la déforestation, c'est une vraie nécessité. On a parlé tout à l'heure de la culture du cacao, mais il n'y a pas que ça. Autre illustration, en Casamance, dans le sud du Sénégal, dans les mangroves en danger où l'on cultive du miel. Témoignage pour Brut Afrique d'un apiculteur.
Puisqu'on s'active dans le reboisement de la mangrove, nous nous sommes dit qu'il faut essayer de chercher un autre emploi qui va nous aider aussi à protéger la mangrove. Donc on a utilisé aussi les abeilles, voilà, avec les ruches, pour les installer un peu partout dans la mangrove. Donc au lieu de rester là à parler avec les gens, à leur interdire de couper, donc on a utilisé ce soldat-là pour pouvoir faire le travail. Parce que la personne qui se donne pour venir détruire la mangrove, donc une fois qu'il commence à couper une branche ou une racine des palétuviers, donc les abeilles vont se fâcher et ils vont venir vers lui. Il sera obligé même de laisser même son matériel et de fuir.
Reportage à voir sur Brut Afrique, où vous êtes journaliste, Edouard Ning, on vous retrouve, et en plus, ça fait du bon miel.
Ouais,
échapper aux abeilles qui se fâchent et faire du bon miel.
Effectivement, oui, comme il l'a dit avec beaucoup d'humour. Et je note surtout lors de ce reportage l'aspect de regagner cette mangrove. Et justement, l'ancien ministre de l'écologie, Ali Haidar, qui a fait un travail incroyable sur ça et qui a réussi à regagner, je crois, 15 000 hectares de cette mangrove. Et je pense que justement, c'est là où ce genre de reportage est important. On n'est pas forcément spécialiste dans ce genre de domaine, mais notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de donner la parole à ces gens-là qui font ce travail pour la biodiversité, pour l'écologie. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera, main dans la main, à réussir à faire quelque chose.
Des choses originales. On ne se dit pas qu'une mangrove peut devenir un lieu d'apiculture.
Ah non, mais on ne se pose pas la question.
Merci, Edouard. Avant de nous quitter, Marc de Betz, parlons d'une autre piste, ou d'autres pistes au pluriel pour l'avenir, l'utilisation des nouvelles technologies pour le secteur agricole. On va écouter encore un témoignage d'abord au Sénégal, celui de Mouhamadou Kébé, qui a créé il y a un an une plateforme pour aider des dizaines de milliers de producteurs à mieux planifier, à limiter leurs dépenses en eau et en engrais avec une start-up, Tolbi, qui collecte des données météo avec des images satellites et avec l'intelligence artificielle.
Il faut que les agriculteurs puissent se doter de plateformes pour qu'ils puissent savoir qu'aujourd'hui je dois mettre plus d'eau parce qu'il y a d'ici une semaine il ne va pas pleuvoir, après demain ça va pleuvoir, donc je dois diminuer en fait mes intrants, fertilisation et irrigation. Donc l'impact qu'on a sur le terrain par rapport aux agriculteurs, c'est des réductions en fait d'eau de perte d'eau de 50 à 80%, réduction en fait des pertes en termes de fertilisation de 30%.
Le start-upper sénégalais Mouhamadou Kébé, rencontré à Marseille lors d'Emerging Valley par Ariane Lavrieux. Marc Debetz, le numérique, ça peut aider pour améliorer les rendements ?
Évidemment, le numérique en tant que technologie, pour prévoir, pour vision satellitaire, ainsi de suite. Aussi le numérique, par exemple la blockchain, qui permet de garantir un peu les origines et de tracer le parcours du produit agricole et de la production agricole.
Certains en parlent comme d'une nouvelle révolution agricole.
Alors,
c'est un peu trop...
Ouais, voilà. Il y a le numérique, mais en fait, globalement, la technologie. Et la technologie, ça commence par exemple par les semences. On en parlait tout à l'heure, des semences adaptées. C'est de la technologie. C'est de la technologie parce qu'en fait, c'est le fruit de recherche, de sélection, ainsi de suite. Et donc, ce sont l'ensemble de ces technologies, de ces bonnes pratiques, qu'elles soient numériques, mais aussi très traditionnelles, semences, système de travail du sol, système de récolte, stockage. Parce qu'avant de faire des applications numériques sur l'iPhone et ainsi de suite, il faut quand même s'assurer que la céréale, que la production a été correctement stockée et conservée. Et si on ne fait que le numérique, et c'est pour ça que je suis un fan de technologie, en effet, la révolution agricole en Afrique comme dans les autres pays se fera en partie grâce à la technologie, mais pas que le numérique, il faut aussi faire progresser l'ensemble des bonnes pratiques, encore une fois, de la semence jusqu'à la consommation.
On a parlé des images satellites, un peu moins haut, il y a les drones, c'est aussi une innovation utile.
Exactement, satellites, drones, donc aujourd'hui, dans les pays mécanisés, on sait capter les informations pour pouvoir réguler et donner les informations aux tracteurs, à l'épandage d'engrais par exemple, pour qu'on ait la bonne quantité d'engrais qui soit épandue, pour pouvoir faire un arrosage en fonction du cycle végétatif des plantes, et ainsi de suite. Donc tout ça existe. Ça marche très bien dans les pays mécanisés. La question, c'est l'adaptation à la pratique agricole en Afrique qui n'est rarement mécanisée. Donc il faut faire attention de ne pas faire des promesses miraculeuses. Ça fera partie de la solution. On y est très attaché. Il y a des belles choses à faire. Et le but, ce n'est pas d'être au niveau de performance de l'Ukraine ou des États-Unis ou de l'Europe. Mais c'est d'arriver à ce niveau de performance, encore une fois, pour produire en quantité, ne pas surconsommer les sols agricoles. Et ça, il va falloir trouver la voie, et on est en train de trouver la voie, pour le faire sans passer par une agrochimie intensive. On a la chance en Afrique de ne pas avoir abîmé la biodiversité, de ne pas avoir abîmé les sols. Il est hors de question de faire une agriculture productive au détriment de cette qualité. C'est un bien commun.
D'immenses marges de progression pour ce bien commun et des pistes pour l'avenir que nous avons largement évoquées dans cette émission. Merci infiniment, Marc Debetz, d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci à vous tous, merci Bruno.
Président d'Apex Agri, on va continuer de suivre vos activités. Merci bien sûr à Spark News de nous avoir accueillis ici dans ses locaux à Paris. C'est Nami Schmitt, Anissa Saudemont, Audrey Jacquet, Kaela Collet, Spark News qui a donc coordonné le travail de 11 médias pour cette opération L'Heure Afrique. Vous retrouvez le hashtag sur notre page Facebook RFI Echo et surtout les sites de nos médias partenaires. À vos partages, à vos commentaires. Avec notre réalisateur Guillaume Munier, on se dit à la semaine prochaine pour un grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Ce sera un grand chef d'entreprise ivoirien. Je ne vous en dis pas plus. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.